Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, Passage à Niveau, votre compagnie, ce dimanche 12 octobre, et voilà le menu. La privatisation des transports publics dans la région parisienne est en marche forcée. Quelles conséquences pour les usagers et pour les travailleurs? La RATP, la SNCF, point d'interrogation, on va avoir des réponses dans deux petites minutes. On parlera également du colloque international de l'histoire aux histoires, relire et revoir l'œuvre de Maryse Verbarène au 21e siècle. Après, on va partir au septième édition du Festival du film social du 13 au 16 octobre. Et on pourra le voir dans 60 sites de diffusion répartis dans 40 villes. Pour finir, un livre itinéraire de refus de Georges Vallat des éditions Chandaigne Lima, une quête de liberté forgée par l'exil et la révolte du Portugal dictatorial à la France de mai 68. Mais avant tout, bon, merci d'être là, Fabien Guillaume Bataille, bonjour.
Bonjour.
Alors, je rappelle, vous êtes conseiller régional Île-de-France et membre du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. Et par téléphone, on a un machiniste, John Borges, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, donc machiniste, bus, je le précise, syndicaliste CGT et RATP. Alors, l'intitulé, c'est un petit peu la provocation, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. La privatisation des transports publics dans la région parisienne est en marche forcée. Quelles conséquences pour nous? Moi, je parle comme usager, je ne vois pas être un client. Et pour les travailleurs de la RATP, de la SNCF, Fabien Guillaume Bataille, en résumé.
La conséquence, c'est les conséquences d'une privatisation. D'ailleurs, Valérie Pécresse se bat bec et ongles pour qu'on utilise le terme de mise en concurrence, mais la réalité dans la pratique de sa mise en concurrence, c'est que les salariés, par exemple, de la RATP passent sous contrat de droit privé, donc on est face à un salariat privé plus de droit public. Il y a une privatisation de l'exploitation, c'est-à-dire que ce sont des entreprises privées qui vont exploiter les lots, on y reviendra, parce que ça rend les choses très compliquées, cette histoire de l'eau. Les entreprises publiques n'ont pas le droit de candidater, elles sont obligées de créer des filiales pour cela. Des filiales de droit privé, et en plus elles sont obligées de faire des filiales par lot. Donc c'est même plus, c'est-à-dire quand on est par exemple chauffeur de bus Keolis à Mitry-Mory, on est chauffeur de bus de la petite entreprise qui gère la délégation qui est autour d'Arnouville-Mitry-Mory. On n'est pas salarié de Keolis. Donc tout ça donc passe au privé, y compris donc pour la RATP. Et puis donc au final, donc c'est les dividendes et les bénéfices du coup appartiennent à ces structures privées et ne sont plus reversés aux maisons mères comme la SNCF et la RATP, dont les dividendes vont à l'État. Donc il y a privatisation des profits, objectivement. Et puis il y a une dénationalisation, si vous me permettez, puisque par exemple Transdev est passé sous contrôle allemand en avril. Keolis est détenu à 30% par des fonds de pension nord-américains. Et on a amené ATM, un Italien, pour s'occuper des transports de Fontenay-aux-Roses.
Alors, John Borges, je pense que les conséquences de cette privatisation, vous la vivez déjà dans la vie quotidienne. Comment ça se passe?
Oui, tout à fait, on la vit déjà depuis quelques mois, même quelques années, parce que les entreprises qui se préparent à cette ouverture à la concurrence, privatisation, comme dit Fabien, les entreprises se préparent et elles essaient déjà de taper sur les conditions de travail des agents, augmenter le temps de travail. Diminuer le nombre de repos. C'est dans un objectif d'arriver avec l'ouverture à la concurrence qui va venir demain. Déjà pour les premiers lots, c'est au 1er novembre, dans une logique de rentabilité. Et voilà.
Alors, à propos de l'eau, DSP numéro 43, DSP numéro 46, 47, le 10, etc. Ah, du 48, aussi du 49. Ça, c'est des chiffres, des données qui viennent de Île-de-France Mobilité. Ils travaillent bien, hein. Ça c'est vrai que la DOC a consulté, il nous manque pas mal. Mais je pense, et ça je demande à John Borges, Jeanne de Broche, parce que bon, déjà, peut-être rappeler pour nos auditeurs une journée de travail, combien d'heures et dans quelles conditions, pour que les gens se rendent compte qu'est-ce que c'est conduire un bus.
Bah déjà, être conducteur de bus, c'est comment vous expliquer, c'est être disponible tous les jours et puis à n'importe quel horaire, hein, aussi bien du lundi au dimanche, être du matin, travailler de nuit, travailler de jour. Donc voilà, c'est ça, c'est du métier. Ce sont les horaires et puis la difficulté, la pénibilité en elle-même du métier dans le contexte qu'est l'Île-de-France. Et c'est pour ça que les conducteurs de bus à la RATP avaient réussi à arracher des conditions de travail plus favorables que des collègues, par exemple, qui sont en province, etc., qui sont dans d'autres réseaux. Et c'est ça que demain, la privatisation va remettre en question.
Alors, la réunion de Île-de-France Mobilité du 17 octobre, apparemment, doit prendre assez de nombreuses décisions, notamment la fin du monopole de la RATP, et comme a dit Jean Borges tout à l'heure, à partir du 1er novembre, concrètement, en principe, la réunion du 17 doit décider attribuer les deux dernières délégations de services publics pour l'exploitation du réseau de bus historique de la RATP. Concrètement, c'est de l'eau concerne Paris qui est découpé en deux secteurs.
Oui, c'est les deux derniers lots. Alors déjà, il faut se rendre compte que le périmètre de la RATP, qui était un seul lot, qui permettait d'ailleurs de déplacer des agents d'un endroit à un autre, etc., est maintenant réparti en 13 lots, dont deux lots qui concernent... donc, qui seront attribués par le conseil d'administration du 17 et qui concernent le centre de Paris. Et dans ces 13 lots, la RATP a été éconduite dans le processus d'appel d'offres sur deux lots, le 39, le 44 pour Transdev, deux autres lots pour Keolis, le 47 et le 9, et un dernier, donc on l'évoquait, pour ATM, le lot 40. Et donc tous ces lots demain vont être en fait saucissonnés. Et les agents d'une filiale, même RATP, qui va s'occuper de tel lot, ne pourront pas être déplacés en cas de manque, en cas de besoin, etc. Voilà. C'est vrai aussi d'ailleurs des bus. Et donc, on va abaisser la capacité de l'opérateur à pouvoir gérer objectivement des difficultés.
Alors, je pose une question bête, je m'excuse tous les deux. C'est un principe. Quand c'était les RATP, qui avait, disons, le contrôle de tout ça, au moindre problème dans tel secteur ou tel autre secteur, elle pouvait réagir automatiquement. Donc, il y avait une unité on avait un point de vue d'ensemble des transports au niveau bus. Hein. Alors, désormais, comment ça se passe? Chacun va tirer de son côté, chacun dit, bon, moi je me débrouille de mon lot, de mon secteur, les autres qui se débrouillent. Qu'est-ce qui va se passer pour les usagers?
D'abord, ça veut dire qu'il y aura une réactivité moindre. Voilà, la grande inquiétude pour les usagers, hein, c'est que lorsqu'il y aura des pannes de modes de transport lourd, RER, métro, ça arrive, ou même tramway, quelle sera la capacité de réagir d'un opérateur s'il doit tout d'un coup débloquer énormément de bus? Voilà, écoutez, on est à Valenton, je vais parler du tramway 9 qui appartient déjà à Keolis, on le vit. Quand il y a des pannes du tramway 9 aujourd'hui, Keolis n'est souvent pas en mesure de mettre le nombre de bus suffisant. Du coup, ils ont un contrat de mise à disposition de bus d'urgence avec la maison mère de Keolis et avec la RATP pour pouvoir faire appel à ces bus au dernier moment. Et maintenant, ils vont avoir tout le lot de bus qui est autour du tramway 9, donc tout l'ouest du Val-de-Marne. Et donc, théoriquement, ils vont devoir... Donc, la réactivité, c'est qu'en gros, ils vont avoir des contrats pour se faire prêter des bus en cas de grosse panne. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile à activer
harmoniser tout ça.
Que de pouvoir appeler le dépôt qui est là-bas, dont on sait qu'il a une réserve de bus pour qu'il les mette à disposition.
Jean Borges, vous vivez déjà cette situation-là, d'avoir plusieurs opérateurs pratiquement dans le même secteur. Pour le moment, vous êtes toujours 100% RATP.
Alors là aujourd'hui notre les réseaux se croisent, on va dire, hein. Par exemple, moi je suis sur Saint-Denis, mais il existe déjà plusieurs réseaux qui qui interviennent sur le secteur, mais pour l'instant, on n'a pas été appelé à nous intervenir sur mais probablement, comme dit Fabien, demain, il y aura sûrement un gros problème d'organisation, parce que pour répondre à des urgences comme vous parlez, ben il faut déshabiller Paul pour habiller Jacques, donc. Et ça se paye, c'est-à-dire que Île-de-France Mobilité va devoir encore sortir le chéquier pour que les opérateurs ils acceptent de déshabiller leur ligne, parce que mettre à disposition des bus, c'est aussi mettre à disposition des chauffeurs qui sont en train de rouler sur leur ligne. Ça nous arrive des fois qu'on nous appelle sur ligne pour dire bon, est-ce que t'es disponible toi après ton service pour aller remplacer le tramway qui est en panne, ou remplacer telle et telle chose, et tout ça se paye. Hein.
Alors cette situation de privatisation, bon, ça s'est mis en place petit à petit, mais apparemment les usagers, tout à l'heure je vais vous demander, je suis un usager ou un client, mais ça a eu déjà des conséquences. Est-ce que, Jean de Bourges, dans votre vie quotidienne, parce que vous êtes en contact direct avec le public, si un bus qui a manqué ou ceci, si à cela, vous, je pense qu'on vous interpelle, les gens sont au courant de tout ce qui est en train de se passer?
Eh ben, malheureusement, on s'est rendu compte que non, parce que bon, la CGT a commandé un sondage IFOP à une assez large échelle, et les usagers ont répondu pour plus de 77% qu'ils ignoraient la privatisation des transports en Île-de-France. Mmh. Et la plupart ont déjà constaté l'échec des premières délégations de services publics, notamment en Grande Couronne. Hein, je pense que les auditeurs seront d'accord avec moi. Pour ceux qui habitent en Grande Couronne, depuis l'ouverture à la concurrence des réseaux de Grande Couronne, ils ont dû constater une diminution de l'offre, ou moins de bus, des bus qui manquent, des bus qui n'apparaissent plus, qui disparaissent. Donc voilà, et puis ça se répercute bien sûr sur le travail des salariés, parce que les usagers, forcément, ils sont mécontents, les bus sont bondés, moins de bus, les bus sont remplis, etc. Donc voilà, ça laisse ça. Il faut que les auditeurs comprennent, et les usagers, que l'ouverture à la concurrence, la privatisation, ça bénéficie ni aux agents ni aux usagers, en fait.
Alors, si on peut sortir un peu des bus, bon, quand il n'y a pas un bus fantôme, hein, parce oui. Pas la semaine dernière, celle d'avant, apparemment, c'était environ 2000 bus fantômes. Bon, et ça, c'est des chiffres que ne reflètent pas tout à fait la réalité.
Non, c'est des chiffres qu'on relève à la volée sur les communications des détenteurs de l'eau, et donc qui sont partiels. Donc, c'est les 1900 dont on est sûr. Qu'ils ont vraiment disparu, il y en a probablement beaucoup plus.
Beaucoup plus. Alors, parlons un petit peu du Transilien et du RER. Apparemment, la privatisation qui était prévue, elle va avoir plus tard. Mais quelque chose qui a été acté, c'est le démantèlement du RERD sud, la partie sud. Concrètement, qu'est-ce que ça va impliquer pour les usagers, Fabien?
Bah, écoutez, ça veut dire tout simplement qu'à partir de l'épine de Corbeil, hein, sur le RERD, il y aura un opérateur pour tout l'après-épine de Corbeil et un opérateur pour le reste du RERD. Donc en gros, il y aura deux opérateurs sur la ligne D. Évidemment, comme ce sont pas deux lignes, deux endroits de même nature, parce que effectivement, après l'épine de Corbeil, on rentre dans la très grande couronne francilienne, mmh. Et il y aura le cœur d'agglomération entre Corbeil, Paris et puis la branche nord. Évidemment, ça veut dire que ce sera pas le même niveau d'opérateur, ce sera pas le même niveau. Enfin, on va voir, parce que là, en gros, ce qu'on va déterminer, c'est la constitution des lots qui vont être soumis à concurrence. Donc ça, on verra quels sont les opérateurs après qui candidatent, toujours sur le même modèle que les bus, c'est-à-dire pas d'entreprise publique et des filiales dédiées. Et donc, inévitablement, ça veut dire pour les usagers du RERD, il y aura des coupures.
Mais est-ce que les entreprises qui prennent ce lot, délégation publique, il faut le dire, bon, tout au moins la première délégation, ils ont un cahier de charges. précis et qu'est-ce que vous en pensez de ce cahier de charges?
Bah, le cahier des charges, il est d'abord, on constate qu'il est difficilement respecté. On constate aussi que dans les premiers lots, les opérateurs ont cassé les prix pour emporter les lots et que maintenant ils cognent à la porte d'Île-de-France Mobilité. Là, je vous parle des bus, hein, c'est ce qu'on a pu constater. Et donc en Grande Couronne, par exemple, au début d'année, Valérie Pécresse, et c'est pas la première fois qu'elle doit le faire, a été obligée de rajouter 377 millions d'euros sur les contrats des bus de Grande Couronne, parce que sinon, tout le monde était pas à l'équilibre, et qu'il y en a même qui disaient, bah, dans ces conditions, nous, on peut plus continuer à être les opérateurs. Donc, en plus, même cet argument de ça va faire des économies, parce que on nous vend toujours que la mise en concurrence va faire des économies, même cet argument, en fait, elle y tombe, parce que, objectivement, ils ont voulu tellement resserrer les prix, qu'ils sont même plus en capacité, avec les contrats qu'ils ont, d'opérer la commande publique qui a été faite.
Alors, cette ouverture à la concurrence, ça n'a rien à voir avec le droit européen. Je pense qu'il faut le dire, même par rapport à la SNCF, la situation...
Alors, pour la SNCF, oui.
Oui et non. Et oui et non.
Pour la SNCF, sur le fer, il y a effectivement... Une ouverture à la concurrence, mais la modalité de... exclure les entreprises publiques, ça c'est français.
Voilà, non, mais c'est ça que je voulais préciser, Fabien.
Mais pour les bus, c'est que c'est même pas obligatoire de faire une mise en concurrence pour les bus, c'est ça qui est fou.
Alors, ce qui concerne les bus, Jean Borges, les contrats de travail du droit public des agents de RATP disparaîtront. Donc c'est une préoccupation supplémentaire, hein?
Excusez-moi, j'ai pas bien entendu.
Non, je disais que les contrats de travail du droit public des agents, la RATP, disparaîtront. Ça, à partir du moment où il y a des entreprises privées qui achètent les lots.
Voilà, tout à fait. En fait, moi, mon lot, c'est le lot 42. On a vu qu'il y avait beaucoup de lots. Eh ben, au 1er novembre, je passe chez une filiale de la RATP. Qui s'appelle CAP-RATP, et mon statut d'agent du service public, agent RATP, disparaît. Je tombe sur un contrat...
Oui, Jean Borges. Ça coupe.
Oui, oui.
On a des coupes. Mais finalement, est-ce que le contrat actuel, bon, service public, vous ne le gardez pas pendant un certain nombre de temps? Quel temps un an, deux ans, trois ans, comment ça se passe?
Alors, on le garde pendant 15 mois. Mmh. Voilà, certains éléments comme l'accès qu'on a à la caisse, la CCAS, qui est notre caisse d'assurance maladie. Et voilà, on a un accès comme ça qui va perdurer pendant plusieurs mois, mais ensuite tout va basculer. Vers le droit privé. On va être affilié à la CPAM.
Donc, ça veut dire que les conquêtes sociales risquent de disparaître. Bon, disons, appelons un chat un chat.
Ah, c'est ça. Et ce qui est très bon aussi, c'est que tous les accords d'entreprise qui existaient aujourd'hui, c'est des accords qui ont été acquis avec des luttes, etc., au fil des dizaines d'années depuis qu'existe la RATP. Tous les accords tombent, parce que clairement, en fait, on change d'employeur, on a un changement d'employeur, puis c'est la loi, les accords tombent, ou les entreprises peuvent dénoncer tous les accords d'entreprise. Alors ça peut être lié au temps de travail, à la rémunération des primes, enfin tout ce qui encadre le travail et la rémunération. Et donc, vu que c'est remis en cause, forcément, les entreprises qui reprennent les lots, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont chercher à tirer vers le bas, parce que quand on est une entreprise privée, on est dans une logique de rentabilité, et puis c'est pas leur intérêt de mieux rémunérer les agents ou de leur donner de meilleures conditions de travail, de diminuer leurs horaires, de leur donner de bonnes conditions de travail.
Fabien Guillaume Bataille, vous voulez réagir?
De fait, nous, c'est ce qu'on a constaté. Il faut savoir que dans les transports, entre 75 et 80% du prix, c'est les salaires des agents qui font qui conduisent les bus, qui les réparent, etc., etc. Donc, de fait, la seule chose, quand on veut faire des économies pour faire des profits, le plus gros poste à compresser, c'est les travailleurs et c'est le salaire. Voilà, donc c'est comme ça. Et sur ces accords, John a raison, c'est-à-dire que les accords d'entreprise tombent. on va vers des accords de substitution. Il y a eu mis en place quelque chose qui a été appelé par Valérie Pécresse l'accord, le sac à dos social. Sac à dos social qui, en gros, dont le principe essentiel, c'est pas de baisse de rémunération. Par contre, c'est pas de baisse de rémunération et ça ne dure que la première. Ça ne dure que la première. Que la première délégation.
15 mois, a dit Jean-Paul.
15 mois, c'est pour les autres avantages et les autres conquis sociaux. Il a parlé de la CCAS par rapport au régime CPAM, voilà, qui était une particularité de la RATP. Donc ça disparaît en 15 mois.
CPAM, ça veut dire caisse primaire d'assurance maladie.
Très bien. Par contre, la rémunération est censée être garantie jusque le temps de la première délégation de service public, mais si cette délégation dure 5 ans, au bout de 5 ans, tout peut être remis en cause. Là, il n'y a plus de sac à dos social pour les salariés.
Alors, les salariés, bon, ça y est, ils vont quitter le statut, je mets statut entre guillemets, attention, il ne faut pas s'y méprendre avec le mot que j'utilise. Bon, en tout cas, ils ne sont plus au service du public. Mais à ce propos, Jean Borges, aujourd'hui, moi, que j'utilise le transport en commun, je suis un usager ou un client pour vous?
Alors, pour moi, personnellement, vous êtes un usager. Et nous, c'est un terme que nous, à la CGT, on veut garder. Mais pour ces entreprises-là, vous êtes déjà un client depuis longtemps. Hein. Voilà. Et c'est vrai que les termes ont une importance. Dire usager, service public, c'est important.
Mmh. Alors, Fabien Guillaume-Bataille, bon, je prolonge ma question, c'est la même, et je rajoute quelque chose. Les transports, c'est un bien commun?
C'est un bien commun par nature, puisque c'est le droit à la mobilité que chacun a, de pouvoir se rendre au travail, mais aussi de pouvoir sortir avec ses enfants, aller en forêt ou aller visiter un musée. C'est ça dont on parle, quand on parle de droit à la mobilité. Et donc déjà, c'est un droit essentiel humain de pouvoir se déplacer. Je dirais que c'est encore plus aujourd'hui un bien commun, parce que on sait tous l'état de la planète, on sait tous l'état du climat et de l'air que nous respirons en Île-de-France. Et donc le fait que ces transports publics communs soient accessibles à tous est aujourd'hui un enjeu, je dirais presque une condition de survie pour faire baisser le nombre de camions, le nombre de voitures sur les routes. Et donc, effectivement, c'est un bien commun encore plus. C'est pour ça que nous, on tient à ce que ce soit public, parce que ça nous appartient à toutes et tous, que les agents soient des agents publics, c'est-à-dire qu'ils rendent un service qui appartient à tous, et donc en ce sens-là, ils ont un statut particulier, et qu'on tient aussi au terme d'usager, parce que effectivement, on n'est pas client.
Mmh. Alors, dernière question, pétition Stop Galère. Donc, c'est des initiatives, bon, ça fait déjà plusieurs mois d'ailleurs que cette pétition circule même. Il y a des interventions dans les gares auprès des usagers. Ah oui, aujourd'hui, ces entreprises parlent de clients, mais enfin... Donc, cette pétition Stop Galère, ça continue, ça...
Alors, ça continue. On continue de faire des assemblées aux quatre coins de l'Île-de-France pour expliquer ce qui se passe. C'est d'abord un gros travail d'information pour que chacun comprenne ce qui est en train de se passer, parce que, John le disait, le sondage révèle qu'en fait, on n'a pas consulté les franciliennes et les franciliens sur ce qui était en train de se passer. Ils constatent les dysfonctionnements et la baisse de services qu'ils vivent, et pour autant, ils ne sont pas informer des raisons et du pourquoi. Donc ça, c'est un gros travail. Et puis l'autre, c'est de dire, ben maintenant, on veut être consulté, ça suffit. Et donc, il y a un enjeu, c'est que pour 2028, les franciliennes et les franciliens aient le droit de se prononcer sur ça. Parce qu'il y a un autre élément du sondage, mais John le dira peut-être mieux que moi, c'est que une majorité de franciliens, près de 70%, demandent la pause de la mise en concurrence et de la privatisation.
Alors justement, Jean Borges, les derniers mots, ça sera pour vous. On est en train de terminer cette interview.
D'accord.
C'est à vous.
Oui, bah moi je vais être dans la continuité de ce que dit Fabien. Il y a clairement eu un déni de démocratie opéré par la droite à la région, dirigée par Valérie Pécresse. C'est que les gens nous disent au travers de ce sondage qu'ils n'ont pas été consultés, Deuxièmement, à leur grande majorité, ils sont pas d'accord avec les avec ce qui est fait en matière de transport contre la privatisation et l'ouverture à la concurrence. Et deuxièmement, ils demandent un moratoire, c'est-à-dire de suspendre l'ouverture à la concurrence dans les transports jusqu'à la prochaine échéance démocratique qui sont les futures élections au conseil régional, voilà, et que les gens enfin soient au courant. Et moi, ce que l'appel que j'ai à faire, c'est lisez les programmes, regardez bien et allez voter, parce que on voit les conséquences que les politiques régionales peuvent apporter dans le quotidien des gens.
Voilà, je pense que.
Et on sera dans vos gares en novembre avec des informations et la pétition.
Voilà, bon, je pense que c'est une affaire qui nous concerne à tous. On est toujours des usagers, j'espère le rester jusqu'à la fin de ma vie. Merci Fabien Guillaume Bataille, je rappelle votre conseiller régional de France, membre du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. Avant, ça s'appelait STIF, mon foi. Et merci aussi à Jean Borge, machiniste, syndicaliste CGT, RATP. Merci à vous deux.
Merci beaucoup de l'invitation.
Merci à vous.
On revient au direct ce dimanche 12 octobre. On allait au théâtre, cirque et tout ça. Personne n'est pso, cirque, poésie et quête de soi. Sous le roi du poète Fernando Pessoa. Et le titre, la pièce, comme j'ai dit, personne n'est personne. Actuellement, est représenté au studio Héberto, 78 boulevard Bis, boulevard des Batignolles, Paris 17e, les lundis à 19h et le mardi à 21h. Et voilà la bande-annonce de cette pièce.
Le poète est un fils d'homme.
Femme est le propre du poète.
Alors c'est à cette époque que j'ai commencé à écrire sur mes doutes, mes rêves. Et soit c'est ça. Je suis plusieurs.
J'ai créé en moi diverses personnalités.
Quart d'heure de ma vie, ça.
Le créateur du miroir a empoisonné l'âme humaine.
Personne n'est pso, l'auteur c'est Nico Pirsch qui signe également la mise en scène avec Esper Lopez. Cette pièce, on peut la voir jusqu'à aux environs de la fin du mois de novembre. Studio Héberto 78, boulevard des Batignolles, Paris 17e. On va quitter Fernando Pessoa, maintenant on va parler de Maria Isabel Moreno. Ceci à propos du colloque international de l'histoire aux histoires, relire et revoir l'œuvre de Maria Isabel Moreno au 21e siècle, le 14 octobre à la Contemporaine, Université Paris-Nanterre, et le 15 octobre, Maison du Portugal, André de Gouveia. José Manoel Esteves, bonjour.
Bonjour, si vous voulez.
Merci d'être avec nous. Donc, responsable de la chaire Lindley-Sint, Camões, IP, Université de Paris-Nanterre. Bonjour également à Marine Bertrand. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, Crédus, Université de Paris-Nanterre, et qui a soutenu la thèse de doctorat L'écriture de Marie-Isabel Moreno face au Portugal du XXe siècle, esthétique de l'hybridité, résistance politique et réécriture au féminin. Vous en avez expliqué également exactement qu'est-ce que vous avez fait. Alors, commençons par le début, peut-être, chez Manoel Esteves. Ce colloque, comment il a été organisé? Quels sont les objectifs?
Alors, bonjour Amélie et bonjour aussi à nos auditeurs de Radio Alpha. Au fait, nous avons, tout le monde connaît les nouvelles cartes portugaises, les nouvelles lettres portugaises des Trois Marias, qui sont célèbres au Portugal, mais célèbres dans le monde, étant donné le procès qu'elles ont donné origine après la publication pendant le fascisme. Et nous avons constaté, au fait, que parmi ces trois écrivaines, Marie-Isabel Berrène, qui a une œuvre assez importante dans son ensemble, était une écrivaine qui commençait à être un peu oubliée, pas très facile de trouver ses livres d'un côté, pas beaucoup d'études sur son œuvre, et donc c'était le moment aussi de nous interroger. D'un côté, il y avait la thèse de Marina Bertrand, dont elle ira vous parler. En même temps, Imprensa Nacional Casa da Moeda commence cette année la publication des œuvres complètes. Et donc, avec ma collègue Anne-Rite Sosa de l'Université de Bucarest, on a décidé de lancer les mains au travail et de faire le premier colloque international autour de l'œuvre de Marie-Isabel Berrène pour l'étudier, pour la faire connaître un peu mieux de l'académie, mais aussi du public en général.
Alors, justement, Marina Bertrand, vous êtes une jeune universitaire, autrice de la thèse de doctorat dont j'ai évoqué au début. Avant d'évoquer le sujet de votre travail, ou tout au moins, justement, votre thèse propose un certain nombre d'idées basées sur des faits, sur une œuvre. Parlez-vous un petit peu votre parcours. Finalement, aujourd'hui, vous avez choisi un parcours universitaire. Ça vient du cercle familial. Comment ça s'est passé?
Pas du tout. J'ai choisi ce parcours universitaire simplement grâce à mes professeurs de l'Université de Nanterre qui m'ont fait rester au fur et à mesure à chaque fois. Mais j'ai commencé à Nanterre en licence de portugais et puis j'ai continué en master et donc en doctorat. Et donc j'ai commencé à travailler sur Marie-Isabel Berrène pour mon premier mémoire de master 1. Et j'ai changé, et puis ensuite en doctorat, j'ai décidé d'approfondir un peu ce travail que j'avais fait déjà en master.
Alors, c'est vrai que c'est étonnant parce que si je regarde bien, la plupart des jeunes, ils suivent ces études, et quand ils sont universitaires, la plupart sont des femmes. Ça vous concerne ça aussi? Vous croyez que, finalement, vous, les filles d'origine portugaise, vous avez d'autres ambitions? Vous voyez la vie différemment des garçons?
Alors, je ne pourrais pas parler, je pense, pour toutes les femmes, mais je sais que pour moi, j'ai dit que c'est quelque chose que je me retrouve assez différente par rapport à mon collègue masculin. Je ne dirais pas une ambition différente, mais on essaye toujours de se chercher un peu dans notre travail et c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de femmes parce qu'on est un peu moins présentes ailleurs. Donc la recherche nous aide un peu à remettre un peu notre place au centre.
Question indiscrète, je m'excuse. Vous êtes né en France?
Oui, absolument.
Donc, et vos parents, comment est-ce qu'ils ont vu vos choix professionnels? Parce que maintenant, vous êtes quand même universitaire. Comment ils ont vu ça? Ils vous ont soutenu? Qualité un petit peu leur idée?
Ma mère, elle m'a beaucoup soutenue, en effet. Elle a un peu du mal à comprendre parce qu'elle n'a pas été à l'université. Donc, mon travail est un peu abstrait pour elle. Mais même sans trop comprendre, sans trop savoir exactement ce que je fais, elle me soutient quand même à sa manière, oui.
Alors, est-ce que vous pouvez peut-être résumer, c'est pas évident de résumer une thèse, combien de temps de travail?
6 ans de travail.
Donc, je vais vous demander, si possible, en 3 minutes, de résumer l'essentiel, parce que vous proposez ce qu'on appelle une analyse approfondie de l'écriture de Marie-Isabel Berrène. En résumé, est-ce que vous pouvez nous condenser tout ça et voir qu'est-ce que vous avez tiré comme enseignement et connaissance en étudiant l'œuvre de Marie-Isabel Berrène?
Alors, mon choix de Marie-Isabel Berrène, déjà, comme mon collègue José Manuel l'a dit, c'était vraiment parce que, comme on l'a dit, c'est une autrice qui est connue, mais très peu reconnue, comme je dis. Donc moi, l'intérêt, c'était vraiment de comprendre un peu pourquoi il n'y avait pas autant d'analyse que ça sur elle, et c'est pour ça que je suis partie sur l'analyse même de son écriture, parce que ça me semblait un peu ce qui bloquait le plus, parce que Marie-Isabelle, elle a une écriture que moi j'ai appelée hybride, donc elle mélange les genres littéraires. Mmh. Et ça, pour moi, c'était quelque chose que je voulais absolument définir. Et donc, ma thèse cherche à analyser un peu donc, ces romans à travers un prisme transdisciplinaire. On met l'accent donc, sur plusieurs spécificités qui lui sont propres, qui sont propres à son écriture, donc l'hybridité des genres littéraires, la réécriture des mythes et des récits traditionnels et la création des espaces alternatifs. Et tout ça, en fait, c'était pour montrer comment, avec ces spécificités-là, elle déconstruisait, elle désorganisait les normes littéraires, sociales, politiques qui étaient mises en place à l'époque de son écriture, qu'elle a écrit principalement après la révolution des œillets, mais évidemment, voilà, toute la dictature a un peu façonné sa manière d'écrire. Et voilà, donc je m'intéresse moi particulièrement à son roman Amor Sodomain, qu'elle a publié en 1979, et elle a écrit sur presque une décennie. Et je considère moi cette œuvre comme l'œuvre fondatrice de sa production littéraire. Donc j'ai un peu analysé entièrement cette œuvre pour essayer de montrer tout ce qu'il a construit et surtout pour montrer que les spécificités présentes dans cette œuvre sont présentes dans tous la majorité en tout cas des romans de Marie-Isabelle, et donc représenter même les spécificités de son écriture. Donc l'objectif c'était voilà de remettre en contexte, dans le contexte politique et social du Portugal du XXe siècle, l'écriture de Varenne pour montrer comment elle, avec ses structures narratives qui déstabilisent et remet en question les normes sociales, elle propose des outils de résistance face à des logiques dominantes et oppressives, donc comme la dictature ou le patriarcat par exemple. Mmh.
Alors, tout ce qu'on espère maintenant, Marine Bertrand, c'est, bon, il faut du travail, hein, pour que vous puissiez faire un résumé, et pour publier un livre, et là, je pense que les presses universitaires de Paris-Nanterre pourront vous donner un sacré coup de main. Alors, je revenons un petit peu à Marie-Isabelle Varenne, parce que, en effet, quand on parle des trois Maries, les Três Marias, Marie-Isabelle Varenne, presque on l'oublie, qu'elle fait partie, parce que il faut quand même revenir un petit peu en arrière, elle était fondatrice du MLM, à savoir du mouvement de libération de la femme au Portugal, elle était coordinatrice de l'enseignement, oui. L'ambassade du Portugal à Paris, et bon, en plus oui. De toute une activité civique qu'elle a eue comme citoyenne, tout simplement.
Oui, oui, oui. Et au fait, il faut penser à cette femme. Et on peut le voir dans son ensemble, son action, parce que c'est une femme très engagée, que ce soit vraiment dans ses travaux qui concernent la société portugaise, comme tu viens de le dire, par rapport au mouvement de libération de Juniège, mais elle a fait beaucoup d'études qui concernent les travaux, la condition des ouvriers, la condition des paysans, la condition de la femme, beaucoup de travaux qui sont de caractère sociologique. Évidemment, mais il faut voir peut-être son œuvre aussi dans un ensemble, comme Mélina a très bien défini son hybridisme, ça veut dire c'est une œuvre qui va croiser souvent la fiction qu'elle préfère, évidemment, comme forme, les essais, les chroniques, la pensée. C'est une femme de pensée, et c'est une femme où la dimension politique, elle est toujours présente, même quand il s'agit des positions des femmes et du féminisme. Et évidemment, sa présence à Paris, pour nous, ça a été très important en tant que coordinatrice de portugais auprès de l'ambassade de Portugal, parce que c'est pendant sa période parisienne, de 1997 à 2003, je pense que je ne me trompe pas, c'est pendant son mandat que les cours dispensés par l'État portugais, les fameux ELCO, ils vont devenir aussi accessibles à tout enfant qui est à l'école, tout enfant français ou d'autres langues d'origine, dans les écoles primaires, pour apprendre le portugais comme langue vivante étrangère. Et c'est comme ça qu'elle a créé en 2001, en 32 écoles primaires, ce parcours hein, qui dure jusqu'à nos jours, d'un côté. Et de notre... Oui, oui. Et de notre... Oui, je sais ce que je veux dire. Et elle a créé aussi, elle a élargi les sections internationales, puisqu'il n'y avait que Saint-Germain-en-Laye, qu'elle a agrandi déjà pour un collège pas très loin, hein, le PEC, et aussi, quand elle est partie, elle a laissé quand même les sections internationales du lycée Montaigne, du collège lycée Balzac, et aussi du collège lycée international de Grenoble. Donc, c'était un travail très important.
Et je peux le témoigner parce que comme journaliste, j'ai passé des heures dans son bureau à Passage d'Ombal. Bon, pour parler de son travail, mais plus que ça, c'était extraordinaire de parler avec elle. Merci à Germaine d'Angetève, merci également à Marine Bertrand. Alors, Germaine d'Angetève, justement, tout démarre le 14 à 8h45 à la Contemporaine, c'est ça?
Exact. Je voudrais seulement souligner un aspect. Parce que nous avons décidé de présenter aussi l'ensemble de son œuvre artistique, d'en parler. Et beaucoup de monde ne le sait pas, mais Marie-Isabelle Brenne était une artiste plasticienne. Elle faisait de la tapisserie, elle faisait du dessin, et tout ça en sens dans l'ensemble de son œuvre. Donc, il y aura deux intervenantes qui parleront justement de l'état de son œuvre plastique. Et donc, nous serons le premier jour donc, à la Contemporaine et Nanterre, et le deuxième jour, que la matinée d'ailleurs, à la Casa de Portugal, résidence André de Gouveia, qui nous accueille toujours, et pour nous, c'est un bonheur.
Alors, et ça concerne Marine Bertrand, justement, elle va intervenir à 11h45, ça sera la session 2. Et je rappelle, une écriture hybride pour interroger l'histoire. Colloque international, l'histoire aux histoires, relire et revoir l'œuvre de Marie-Isabelle Brenne au XXIe siècle. Le 14, ça va être la Contemporaine, Université Paris-Nanterre. Et le 15, la Maison du Portique à l'Internet de Gauvaille, Cité internationale universitaire de Paris. Merci à tous les deux et bon colloque.
Merci beaucoup, Arthur. Bonjour à Marine aussi. Et l'accès est libre au colloque, donc venez.
Et Marine Bertrand, bon, je laisse une invitation pour venir ici. C'est possible avec les bonnes feuilles de votre thèse, en attendant une synthèse et un livre. Bon, la proposition est sur la table maintenant, c'est à vous de voir. Merci. Merci à tous les deux.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
E voltamos ao direto para esta segunda hora. Lembro, emissão com a difusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Vamos agora falar do Festival do Filme Social, a 7ª edição do 13 ao 16 outubro 2025, nem plus, nem moins, um evento nacional à la croisée du social e do cinema, 60 sites de diffusão repartidos em 40 villes. E é M. Alain Lopez que vai nos falar de ce festival. Ele é presidente e criador da 25e Image, a associação que organiza o festival. Mas, peut-être, on va aller. Revenir au début, quelle est la genèse de ces festivals?
Alors, c'est une création qui remonte à 2019. On en est effectivement à la 7e édition. On a créé une association constituée de l'établissement de formation en travail social, qui était en Île-de-France, mais aussi en province, et puis de grands acteurs du social, comme l'URIOPS, Île-de-France, ou la Fédération des acteurs de la solidarité. Le but étant de promouvoir le travail social au travers de la représentation cinématographique. Et donc, nous avons constitué cette association pour organiser un festival que nous avons voulu d'emblée multisite sur l'ensemble du territoire français. Alors, le point de départ était Montrouge, mais l'idée est de faire un festival sur un grand nombre de sites. Nous progressons peu à peu par rapport à cet objectif. Vous avez rappelé le nombre de régions et le nombre de villes où cette année le festival se tiendra.
Monsieur Lopez, c'est très important parce que le contenu du festival, je cite le mot du président, savoir des mots à vous. Les analyses les plus savantes, les statistiques les plus complètes et les classements les plus exacts en catégorie de personnes et de situations sociales seront toujours impuissants à restituer la singularité d'un être. La représentation cinématographique s'en approche davantage.
Oui, c'est exactement ce que nous pensons. Nous pensons que pour sensibiliser, faire prendre conscience, comprendre les situations dans lesquelles se retrouvent des personnes vulnérables, quelles que soient les raisons de cette vulnérabilité, que ce soit lié à l'âge, au sexe, à la religion, à la situation sociale, à l'origine géographique, dans tous les cas, un film et un bon film, que ce soit de fiction ou de documentaire, qui n'est pas forcément long, ça peut être un court-métrage, ça peut être un long-métrage, eh bien, un bon film permet de toucher du doigt ce qui est en train de vivre, ce que vivent des personnes dans ces situations, beaucoup mieux qu'un long traité de 400 pages ou des statistiques. On voit que derrière les chiffres, on a beaucoup de rapports qui nous disent il y a tant de personnes en situation de précarité, tant de femmes victimes de violences, tant d'enfants maltraités, tant de personnes âgées en perte d'autonomie. Mais ces chiffres restent assez abstraits tant qu'on ne voit pas derrière des destins particuliers, des destins singuliers. Et c'est ça que le cinéma permet de représenter. Et on pense que c'est un moyen efficace pour attirer des vocations dans les métiers du social, mais aussi pour sensibiliser tout un chacun à ce que vivent des personnes avec la proximité desquelles nous vivons et que nous côtoyons dans la vie de tous les jours.
Oui, parce que finalement, derrière des chiffres, il y a des personnes. Et souvent, bon, on avance des chiffres, mais on oublie qu'il y a des êtres humains derrière ces chiffres-là. Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre, plusieurs films sélectionnés cette année pour le festival, je cite, « saisissent la complexité des relations d'aide et d'accompagnement et mettent l'accent sur leur richesse humaine ». Là, on revient à l'humain.
Oui, bien sûr, dès qu'on rentre dans les problématiques sociales, que c'est la voie d'entrée que nous choisissons et pour sélectionner les films de notre festival, dès qu'on rentre par le vécu des personnes, on est confronté à la complexité des situations et à la complexité des solutions d'accompagnement, d'aide, de soutien qu'on doit pouvoir mettre en œuvre. Confronté à cette complexité, on est peut-être davantage prémunis contre les images d'Épinal ou les solutions un peu trop expéditives ou trop simplistes. Et donc, du coup, ça nous pousse à être un peu plus exigeants dans la recherche des solutions que l'on peut trouver pour venir en soutien à nos prochains. Donc alors, oui, c'est la question de cette posture de la complexité ressort tout de suite et dans tous les films.
Derrière ça, bon, parce qu'il y a les films, ils parlent aussi du métier du social. Et ça, c'est très important parce que d'une part, c'est démontrer ce qu'on fait sur le terrain, mais en même temps, pourquoi pas susciter des vocations.
Oui, parce que bon, tous les films ne mettent pas en scène des interventions de travailleurs sociaux. Il y en a quelques-uns, mais bien sûr, tous les films ne font pas apparaître ces interventions-là. Pour autant, ils traitent de sujets auxquels les travailleurs sociaux vont avoir affaire. Et notre idée, c'est que on pourra ainsi peut-être en créant une sorte d'empathie chez les spectateurs à travers la représentation du vécu de personnes en difficulté, en créant cette empathie, notre idée, c'est que on suscitera peut-être de l'intérêt et des vocations vers ces métiers du social qui aujourd'hui sont un peu désertés, ce qui pose un énorme problème parce que sans les travailleurs sociaux, c'est toute la cohésion sociale qui se retrouve mise à mal. Donc, il est important que on puisse faciliter l'orientation de jeunes vers ces métiers qui sont des métiers difficiles, Et il nous semble que la meilleure façon de pouvoir, s'intéresser et attirer des vocations vers des métiers qui sont difficiles, c'est peut-être en suscitant une réaction d'empathie au vu de ce que vivent des personnes qui sont en situation vulnérable, et on a une espèce de foi dans l'envie de beaucoup de pouvoir aider, soutenir leurs prochains en difficulté.
Monsieur Alain Lopez, si on peut résumer finalement à partir d'un événement culturel, c'est-à-dire, on peut l'utiliser comme un genre d'outil de réflexion, de formation et également de la mobilisation citoyenne, non?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les films ont une utilité et d'ailleurs ils sont repris après les projections, souvent dans les établissements de formation avec les étudiants qui auront assisté aux projections. Donc ces films sont repris à des fins d'enseignement, puisque ils permettent de discuter, d'examiner avec des futurs travailleurs sociaux les situations auxquelles ils vont être confrontés. C'est aussi des films, ils sont tout autant des films dont on s'attend à ce que tout un chacun, puisque le festival est ouvert à tout public, bien sûr, tout un chacun soit du coup mieux au fait de ce que vit une personne âgée en situation de dépendance. Certains l'ont vécu parmi leurs proches, ils sont parfaitement informés de ça, mais tous ne le sont pas. Pareil pour les violences faites aux femmes, pareil pour les enfants maltraités, pareil pour les personnes en grande situation de précarité sociale. Et donc, à ce titre-là, on pense que on favorise, à travers cette meilleure compréhension du vécu des personnes, un intérêt dont nous avons besoin dans toute société, à l'égard des plus faibles, parce que c'est sur cette base-là que on peut considérer que nous avons le matériau permettant de travailler la cohésion d'une société. Donc c'est une utopie forte que nous avons, que nous poursuivons à travers ce festival que vous pouvez appeler effectivement engagement citoyen. Ensuite, à chacun, bien sûr, de se déterminer, de faire les analyses qui lui paraissent les meilleures concernant les situations sur lesquelles il aura pu être plus au fait, en comprenant mieux ce qui se passe.
Monsieur Lopez, je vous remercie. Donc, je rappelle, 7e édition du Festival du film social. Ça démarre le lundi 13 et ça va durer jusqu'au jeudi 16 octobre dans 40 villes à travers 9 régions de France, 21 films en compétition. Alors, une toute petite question. Alors, le programme, il est assez fourni. Donc, on peut le consulter sur les réseaux sociaux?
Alors oui, il va être sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi le trouver sur Internet en allant sur le site du festival Film Social 25e Image. Juste un mot quand même, peut-être un peu pour conclure mon propos, quels que soient les discours qu'on peut tenir sur le festival, les meilleurs ambassadeurs, ce sont les films. Il faut voir les films. Et en voir le plus possible, parce que là, on reçoit une espèce d'émotion qui est très très forte quand on passe d'une problématique à une autre, puisque nous n'avons pas de thématique particulière. C'est toutes les situations sociales difficiles qui peuvent faire l'objet d'un des films que nous sélectionnons. Donc, voilà, les films parlent mieux que nous.
Monsieur Alain Lopez, je vous remercie.
C'est moi.
Voilà, Alain Lopez, présidente précisément de l'association que Eulalia foi o criador, foi fundador, la 25e image, isto a propósito, sexta, sétima edição do Festival do Filme Social, de 13 até 16 de outubro. Para terem o detalhe do programa, vão às redes sociais. E agora mudamos completamente de assunto, vamos falar de um livro, Itinerário de Refúgio, de Jorge Valadas, publicado pela Sondagne Lima, uma quête de liberté forgée par l'exil et la révolte du Portugal dictatorial à la France de mai 68. Trata-se de uma entrevista, é uma redifusão, entrevista que realizamos em direto nestes mesmos estúdios. Jorge Valadas, avant tout, bonjour, bonne tarde et merci d'être parmi nous.
Bonjour, peut-être encore un bon dia.
Bon, Jorge Valadas, Itinéraire du refus, Sondagne Lima. Alors, on peut dire que c'est le livre le plus personnel que vous avez écrit, parce que je me souviens encore, on avait parlé de vos anciens ouvrages. Bon, je parle par exemple Le Tir de papier, Spartacus 1972, signé Charles Rive. Après La mémoire et le feu, Portugal vert du décor de Roland, China Blues, etc. Le socialisme sauvage, l'échappée 2018, mais enfin. Alors, ce livre, c'est un genre, c'est quoi? C'est autofiction, c'est une autobiographie, mais en même temps, disons, on a regard sur certain nombre d'événements très importants qui sont passés un peu partout sur la planète depuis les années 50.
Je crois que c'est un voyage dans ma mémoire avant tout, quoi. Forcément, il y a des passages qui peuvent être un peu de la fiction, parce que quand on visite la mémoire, la fiction s'y invite aussi toujours. Et après, c'est un parcours sur une époque, je pense. C'est un parcours sur une époque, évidemment avec un fil conducteur qui est celui du lien, du rapport difficile que j'ai eu avec mon père, que finalement a fini par se régler, heureusement pour moi et pour lui. Et ce fil rouge qui traverse tout le livre, oui, forcément, il est lié à la société portugaise, puisque je suis né à Lisbonne en 1945, et j'ai vécu une partie de ma vie, de mon existence au Portugal.
Le fascisme.
Oui, tardif, quoi. C'était vraiment le salazarisme tardif. Et donc, je pense que dans ce livre, il y a aussi un écho de la société portugaise de l'époque, quoi. Mmh. Ce qui est, bon, évidemment, il y a d'autres gens. Moi, je ne suis pas un écrivain. J'ai écrit des essais sous des pseudonymes, comme tu l'as mentionné. Mais là, c'est plus personnel, c'est très subjectif. Bon, c'est une aventure pour moi aussi, parce que je m'expose et j'expose ma vie, et donc, au-delà de ça, j'aime espérer qu'il peut donner aussi des images sur la société portugaise d'une époque que nous avons vécue.
Oui, tout à fait. Donc, le narrateur, à savoir Georges, raconte sa vie, son enfance, son adolescence, l'apprentissage, la vie chez Salazar. Alors, quelque chose qui existait à l'époque, même au sein des familles, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui étaient tabous. Mmh. Alors, il y a quelque chose qui apparaît au début du livre et après à la fin, bon, mais on a le temps d'y arriver, c'est la peur. La peur, c'est-à-dire, on sentait une peur à la religion, parce que quand on va en enfer, etc., etc., c'est quelque chose que ça vous a travaillé, ça vous a, disons, empêché de réfléchir normalement, mais en même temps, ça a suscité une révolte de votre part.
Oui, c'est vrai. La peur, c'était, je pense, un élément de ce type de société. Je pense pas que le Portugal est une exception. Mais il y avait aussi un autre élément. L'autre jour, une amie m'a fait remarquer ça. Et ça, je pense peut-être que j'ai réussi à le faire passer un peu dans mon témoignage. C'était le silence. C'était une société très silencieuse. C'est, évidemment, il y a un lien entre les deux, la peur et le silence. La peur était politique, évidemment. Moi, quand on était gamin, on le voyait pas du tout de suite comme ça, parce que la politique, c'était quoi, etc. On le voyait pas, on cernait pas très bien tout ça. Mais c'était aussi une peur qui était structurée autour de valeurs, dont les valeurs religieuses. Enfin, moi, je suis né dans une famille qui était disons, à moitié religieuse. Mon père était assez bigot même. Ma mère, qui était pourtant d'origine très pauvre du nord du Portugal, elle était elle avait une religiosité, mais elle n'était pas particulièrement religieuse. Mais bon, voilà, j'ai vécu quand même dans tout ça. J'ai beaucoup vécu. J'ai eu peut-être la chance ou le malheur de vivre un certain nombre d'années à côté de Fatima. Donc, dans les années 50, ça m'a beaucoup marqué. Pas simplement Fatima, mais toute la question sociale que je voyais autour de Fatima, parce que
la misère, etc.
La misère, les gens qui traversaient tout le pays sur les genoux, parce qu'ils avaient promis à Sainte Vierge de venir à pied ou sur les genoux jusqu'à Fatima. On a tendance à oublier ça parce qu'aujourd'hui on vient en autobus, je suppose, j'y vais plus. Mais à l'époque, il y avait des gens du peuple qui traversaient tout le pays sur les genoux pour arriver jusqu'à Fatima. J'ai vu ça et ça m'a beaucoup marqué.
Justement, on va arriver à la religion et après, bon, on va dépasser un petit peu. Ce qui est une révolte. À un moment donné, à l'école, parce qu'on avait la discipline de religion et morale, moi je disais immoral, donc je rajoutais un i, etc. Là, il y a une révolte. Une révolte contre la foi à l'école. Attention les dégâts. Parce que là, vraiment, vous avez des problèmes, mais là, vous avez réussi quelque chose. Cette révolte-là, finalement, elle a résulté en quelque chose de positif pour vous. Et je mets au même niveau que cette révolte contre la religion, et quand vous marmonnez l'hymne national. Alors là, vous avez eu le droit à un certain nombre de choses, des remontades, mais plus que des remontades. Votre père est même allé à l'école dire à la prof, vous touchez plus mon fils. Dès le départ, vous aviez un sentiment de révolte, quelque chose que vous disiez, non, ça c'est pas bon. Pourquoi? Je peux pas encore l'expliquer, mais plus tard, je comprendrai pourquoi. Donc, dès votre préadolescence, adolescence, vous aviez ce sentiment-là de révolte contre quelque chose, vous disiez, c'est pas juste.
Oui, c'est vrai. Je crois que c'est un sentiment qui m'a guidé dans la construction de ma vie. Mais là, du coup, tu abordes une question dans laquelle on va faire réintroduire ce personnage qui fait partie du fil conducteur de mon livre, qui est mon père, qui était un individu. Bon, tout ce que je raconte là, parfois je me dis, mais finalement c'est assez banal parce que des milliers de personnes l'ont vécu. Bon. Moi, je le raconte. Bon, à chacun, on prendra comme il voudra. Mais mon père était un bonhomme assez, qui avait une éthique personnelle et morale très forte, même s'il était aussi, par ailleurs, un admirateur du dictateur Salazar. Et le fait qu'il avait déjà cette construction éthique, ça m'a aidé dans la construction de ma propre révolte, parce que évidemment en tant que gamin tu vois toutes ces choses là tu trouves ça un peu curieux, un peu contradictoire. Pourquoi Dieu qui fait du bien aux gens, qui est censé être la bonté même, pourquoi les gens ont besoin de souffrir pour lui faire plaisir, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi il y a des injustices? Et dans tout ce cheminement, en tant que gamin, j'ai eu des repères qui étaient sœurs de mon père, en fait. Et l'histoire que tu viens de mentionner, à l'école primaire, il fallait chanter l'hymne national, voilà. Et puis aussi des chansons religieuses, etc., ou des prières, je fais pas la différence entre les deux. Ça me gavait. En tant que gamin, j'étais peut-être déjà trop rebelle, puis j'avais envie d'autre chose. Et puis j'ai été battu à cause de ça à l'école un jour, chose qui est pas du tout originale, hein, et ça s'est produit partout. On voit encore aujourd'hui avec l'affaire de Notre-Dame de Bétharram. Mais donc c'est pas particulier au Portugal. Mais mon père a très mal réagi à ça, et donc il m'a amené avec lui à l'école devant la prof, pour engueuler la prof, ce qui était quand même à l'époque au Portugal un acte un peu de courage.
Alors et la prof, et c'est depuis, bon, vous avez continué à marmonner l'hymne national portugais. D'ailleurs, l'hymne continue toujours à être l'hymne portugais. Bon, moi j'ai choisi Grande Vila Morena, c'est mon choix personnel. Bon,
je alors, partage.
Bon, alors Georges Valadez, il y a des dates quand même qui ont marqué votre préadolescence et adolescence. Je commence par 1956, les chars soviétiques à Budapest. On voyait des images à la télé salazariste, parce qu'à l'époque, il y avait une seule chaîne en noir et blanc. On peut continuer comme ça, parce qu'il y a d'autres dates. 1961, la révolte dans une caserne à Bège. Le vote à l'ONU, justement, qui a, une fois de plus, le Portugal était condamné, parce qu'il devrait donner l'indépendance à l'Angola. Alors, l'attaque au paquebot Santa Maria. Donc, il y a un certain nombre d'événements qui sont passés comme ça, c'est pas pour rien que vous les relatez dans le livre. Donc, ça vous a marqué. D'ailleurs, par rapport au paquebot Santa Maria, Eric Alvan et tout ça, j'avais même des sympathies pour eux.
Ça, c'est des événements de mon adolescence. Hein. Bon, l'histoire de 56, la révolte en Hongrie, non, c'était donc j'avais 11 ans, donc j'étais pas encore en adolescence.
Oui, là, mais vous avez différent. Vu les images.
Je sais pas. Alors là, tu parlais de ça. Est-ce que la télé portugaise existait déjà à cette époque-là? J'ai pas le souvenir de ça. J'ai le souvenir, mon père était un lecteur très régulier de diario de notices, qui était un des deux grands journaux, l'autre étant au siècle. Et je me souviens surtout des photos dans les journaux. Je me souviens pas de la télé. D'ailleurs, nous avons eu la télé assez tard. On allait regarder la télé dans un café pendant des années et des années.
Beaucoup de monde.
Voilà, exactement. Mais donc, c'est des événements qui ont marqué ma vie, si tu veux. On revient un peu à la construction d'un livre de ce type. Je l'ai regarde d'aujourd'hui avec ce que je suis aujourd'hui, donc forcément là il y a un peu de fiction, hein, parce que je peux pas vraiment, j'essaie de rétablir comment je les ai vécus à ce moment-là. Ça m'a marqué, ça c'est sûr. Il y a des éléments qui m'ont marqué. Comment je les ai analysés à l'époque, ça je le fais avec l'aide de présent, si tu veux.
Alors, Georges Vollard, il y a quand même deux personnes que je pense que t'ont marqué. Et tu insistes dans le livre. D'abord, il y a le grand-père du collègue du lycée Antonio. Là, une ouverture énorme. Il avait une bibliothèque et quelque chose, quelqu'un qui était contre.
C'était un républicain, ce qu'on appelait à l'époque. Voilà.
Et après, il y a aussi Bernd Speer. Alors là,
un autre républicain.
C'est une citation, « Dire non quand c'est non ». C'est carré, hein, c'est fait. Donc, ces deux personnages-là, deux personnes âgées, on dirait que, de certaine façon, ils vous ont façonné, c'est-à-dire, ils vous ont reconforté dans le révolte qu'il y avait un petit peu à l'intérieur. Non.
Oui, ils m'ont aidé à mettre les morceaux du puzzle ensemble, si tu veux. Le grand-père Moreira, qui était le grand-père de mon ami Antonio, que je fréquentais au lycée, et qui me prêtait les Tintins, etc. Enfin, j'ai beaucoup lu de la BD à l'époque, parce qu'il était très, très friand de ça, et il me l'en passait. Bon, ce grand-père Moreira, c'était vraiment le vieux républicain portugais. Bon, à l'époque, je le voyais comme un vieux monsieur. Bon, il était peut-être sûrement plus jeune que je le suis aujourd'hui, mais il avait une grande bibliothèque et il était surtout très anticlérical, comme beaucoup de républicains portugais de l'époque. Et donc il m'a aidé un peu à chercher dans ce sens, qu'est-ce que c'est que la religion, quel est le rôle social de la religion, pourquoi il y a ce lien entre la religion et le régime en Portugal, etc. Mais c'était pas encore très clair dans ma tête, parce que mon père, comme je disais tout à l'heure, il aimait beaucoup Salazar, il était pas du tout dans le parti unique, parce qu'il considérait que c'était tous des corrompus, ce qui était vrai. Aujourd'hui, on parle de la corruption démocratique, mais on oublie que le salazarisme était un système hyper corrompu, et donc il fallait que je jongle avec tout ça. Mais c'est vrai que ce vieux monsieur m'a beaucoup aidé, et l'autre monsieur aussi, le grand-père Bench, lui c'était un personnage assez drôle. Il était musicien dans l'orchestre de la garde républicaine, mais il était aussi quelqu'un qui avait une présence et qui savait dire non et oui, comme tu as rappelé.
Mais Georges, ouais. On avance un petit peu, ouais. Parce que entre-temps, il y a le lycée, et après il y a l'école navale.
Ouais.
J'ai pas dit au début, parce que tu as été déserteur la marine. Bon, on va y arriver. Justement, alors cette école, l'école navale, bon, élève officier, n'est-ce pas?
Oui.
Avec tout ce que cela suppose. Mais oui. Attention, quand on arrive, bon, déjà le bizutage, bon. Alors, c'était une fois que tu rentres là-dedans, petit à petit, t'as créé, où il y avait un groupe qui s'est formé un petit peu autour de toi. Déjà, pendant le biseautage, je ne sais, à moins que je...
Non, pas autour de moi. Il y avait un groupe.
Il y avait un petit groupe.
J'en faisais partie, mais je n'étais pas meneur de ce groupe.
Non, on s'en fout. D'ailleurs, le meneur, entre guillemets, après, il a subi quelque chose. Bon, il a été expulsé de la marine. On l'a envoyé dans la marine marchande. Bon, c'est une autre affaire. Non, mais justement, alors là, c'est très important parce que là, bon, on rentre quand même dans, c'est un régime militaire, comprenons pas. La marine a toujours été, bon, considérée, bon, plus à l'aise, bon, et surtout la marine, bon, c'est les bateaux, c'est la mer. Et ça, c'est quelque chose que toi, c'est très important. Parce que souvent, tu dis, bon, je lâche le truc, je pars, et l'océan, c'est une ouverture sur le monde. Mais justement, alors, ces années-là, à l'école navale de Rochefort, donc l'autre côté de Lisbonne, ça a été une école de vie, c'est là que ta conscience politique, d'une certaine façon, tout au moins de la situation politique au Portugal et de la guerre coloniale, c'est là que t'as eu, disons, une prise de conscience, parce que j'ai oublié de parler aussi de la révolte en Angola en 1961. Donc, le fait d'être là, dit, bon, zut alors, je fais partie d'un organisme, ça sert à faire la guerre coloniale.
Oui, ça peut paraître paradoxal. Je suis rentré donc volontairement après le lycée dans cette école militaire pour des raisons bon que je vais pas développer ici, mais qui étaient assez communes à d'autres gens. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, c'était la petite classe moyenne, ils étaient plutôt endettés, etc. Bon, bref. Et donc je voulais m'échapper de ma famille. Et j'aimais beaucoup la mer, parce que j'ai eu une enfance très proche de la mer, je raconte dans le livre aussi, dans le sud du Portugal.
Avec
dans
l'île.
Ouais, dans les îles de Sotavento-Algarvio, d'où mon père était originaire. Et donc, je rentre dans cette école militaire, un peu pour m'échapper, pour être un peu plus libre. Et évidemment, j'avais aucune idée. C'est un peu naïf ce que je dis là, mais c'est la réalité. Je m'étais pas posé la question de qu'est-ce que c'était une école militaire. Je souligne le militaire. Sauf que j'ai eu de la chance aussi pour l'époque, parce que dans cette école militaire, il y avait une atmosphère assez contestataire, finalement, c'était les années 60 déjà, d'une façon ou d'une autre, l'agitation qui existait dans les universités de Lisbonne avait un peu contaminé un certain nombre d'individus qui étaient dans cette école militaire. Et donc c'est là que j'ai un peu commencé à organiser mes idées politiques, parce que j'étais absolument en dehors d'aucune, j'ai jamais été dans une organisation politique au Portugal.
Ben, il y a eu des révoltes, mais je mets des révoltes entre guillemets, entre autres parce que vous étiez obligé de faire un exercice à l'île de San Vicente. Cap-Vert. Alors, impossible de faire bon, des manœuvres, bon, des trucs comme ça. Et vous avez décidé, non, on bouge plus d'ici. Bon, conclusion, vous étiez là, vous aviez faim, soif, etc. On est venu vous chercher. Et à la fin, bon, la hiérarchie n'a pas bougé. Mais il y a quelque chose quand même, bon, parce que vous avez été élève officier dans le voilier Sagres. Mm-hmm. Il va raconter une histoire, bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Portugais qui la connaissent, que c'est finalement, bon, on monte Sagres, bon, c'est un des emblèmes du Portugal, etc. Mais ça a été un navire nazi, ça.
Avant, ça a été acheté. J'ai découvert ça justement quand j'étais dans la marine, parce qu'il y avait un copain, celui qui justement s'est fait virer de l'école après, qui était très friand de chercher toutes ces choses-là, et il avait découvert que le navire École Sage avait une histoire aussi. Il n'y a pas que les individus qui ont des histoires, les objets ont aussi une histoire. Et cet objet navire, il avait une histoire. C'était un navire école de l'armée, de la marine nazie, national-socialiste, qui après la guerre a été vendu, je crois, si je me souviens bien, aux Brésiliens, qui l'ont revendu aux Portugais, et là, il a été transformé après dans le navire École Sagres. Alors bon, moi je joue avec ça parce qu'on rigolait entre nous en disant, mais il y a peut-être des fantômes, des nazis, dans les soutes de Sagres, etc. Mais bon, c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout de ça. On parlait pas à l'époque, maintenant je sais pas.
Alors, Georges Valadez, l'exil, donc déjà la désertion 1967, et finalement, bon, il y a eu un problème énorme, on va pas rentrer dans les détails, parce que vous aviez rédigé une lettre à votre commandant pour le décharger, une décharge, en disant, bon, il est au courant de rien, voilà, je mets au courant que je vais déserter. Mais cette lettre-là a été dévoilée par votre mère, parce qu'elle a fouillé dans vos sacs, dans votre sac à dos, qui était préparé déjà pour partir, et elle a raconté à son père. Bon, et ça, c'est quelque chose où j'espère avoir le temps encore de revenir dessus. C'est que, et ça, vous n'avez pas été les seuls, hein, dans ce de la famille, le fait de déserter, d'être refractaire, ça a été vraiment un drame au sein des familles. Mais une chose est certaine, c'est que finalement, de la part de d'autres élèves officiers de la marine, bon, vous avez mis au courant un ou deux, et on vous a dit, bon, vas-y, fonce, parce que c'est ça que tu dois faire. Et je pense que votre passage, justement, en bateau à Guinée-Bissau, ça vous a dit, bon, ça ne va pas, il faut que je quitte. Donc, cette décision de déserter, parce que c'est désertion avec tout ce que ça implique, automatiquement, si vous étiez repris, c'était la prison militaire, hein, il n'y avait pas de...
Bien sûr.
Etc. Donc, ça a été difficile de prendre cette décision-là ou pas?
Oui, ça a été difficile, mais j'étais absolument convaincu depuis quelques années, depuis ce passage éclair qu'on avait fait en Guinée-Bissau, et j'étais décidé que je ne pouvais pas faire cette guerre. Et en plus, bon, je commençais à vraiment à pas supporter le quotidien du régime salazariste qui était très très lourd et qui me convenait pas du tout. Il y a aussi peut-être le fait, maintenant que tu me poses la question, je réfléchis un peu, je me dis que le fait que j'étais pas engagé politiquement de façon explicite m'a aussi facilité cette décision, parce que les gens qui étaient engagés politiquement dans des organisations, et il y en avait dans le régime, il y en avait dans le système militaire, hein, parce que on l'a vu après au 25 avril, il y avait une organisation liée au Parti communiste, d'autres plus proches des maoïstes, etc., qui avait une présence dans les institutions militaires. Mais le fait que j'étais complètement en dehors de ça, ça m'a vraiment incité, non, faut que je m'en aille. Bon, évidemment, c'était très difficile, mais c'est surtout, comme tu viens de dire, la rupture avec la famille, qui était quand même quelque chose de très important. Et tu partais, tu savais pas si tu allais revenir, quand, voilà. Etc.
Oui, parce que c'est l'exil. L'exil, tout à fait, à la fin, j'aimerais bien qu'on revienne à l'exil, s'exiler de l'exil. Bon, c'est-à-dire, parce qu'une fois qu'on part comme ça, on est exilé. On coupe avec tout. C'est-à-dire, on démarre une autre vie. On ne sait pas qu'est-ce qu'on démarre, mais on coupe des amarres, à propos de marins, n'est-ce pas, et tout ça. Alors, arrive à Paris. Bon, il y a un épisode que vous racontez, parce que bon, il n'y avait pas beaucoup de sous, etc. Bon, il y avait des contacts, des copains, mais enfin, il fallait se débrouiller. Vous êtes allé taper au siège du PCF. Et bon, parce que vous avez besoin d'aide. Alors, la seule aide qu'ils vous ont apportée, mais ils n'ont pas été les seuls, les trotskistes, c'était pareil. J'ai marqué zéro. C'est-à-dire, pas de soutien. Et chez le PCF, on dit, bon, allez voir nos amis du PCP. Alors, quand le PCP disait, il faut pas déserter, il faut infiltrer la guerre coloniale, j'ai dit, mais finalement, j'ai raison de pas être, d'avoir ma conscience politique et pas être affilié chez ces gens-là.
Je pense que j'ai ressenti un sentiment d'injustice. Bon, j'étais déjà un peu critique du rôle et de la place du Parti communiste, sans pouvoir y mettre vraiment des mots. Je commençais à peine à avoir une construction politique plus élaborée, plus fondée sur des textes, sur des analyses, sur des... Mais quand je suis allé frapper à la porte du PCF, c'était aussi une naïveté de ma part, parce que bon, j'ai été peut-être courageux dans un certain nombre de décisions que j'ai prises, mais j'ai été aussi très naïf, et parce que aujourd'hui, évidemment, je l'aurais pas fait, et puis la situation n'est pas la même là. Mais à l'époque, je me dis, je suis quand même, j'ai besoin de l'aide. J'avais aucun lien avec, j'avais pas une structure organisationnelle qui me soutenait. J'avais très peu d'amis qui étaient surtout des Français que j'avais croisés, rencontrés dans d'autres circonstances, qui m'ont aidé quand même beaucoup. Mais je me suis dit, peut-être qu'ils peuvent m'aider. Et donc, j'ai été frappé chez eux. Et bon, là, c'était vraiment, ils ont dû dire, mais c'est qui ce mec-là, ce gamin? Donc, ils ont voulu me vendre un billet pour aller à la fête de l'humanité, alors que j'avais pas d'argent pour manger. Donc, je me suis dit, non, là, ils pètent un câble, quoi. Ils comprennent rien, quoi. Donc, je dis, bon, non, c'est terminé.
Bon. Voilà. Chapeau.
Ah, bon. Chapeau, on tourne la page.
Alors, et nous, on va tourner des pages et des pages parce que,
oui.
Bon, il y a mai 68. Bon, vous dites, vous êtes allé même diffuser de la propagande dans les bidonvilles, sentir la peur. Il y a, bon, ouais. Il y a pas ça parce que vous avez vécu mai 68, mais d'une façon alternative, vous êtes allé là sur bon Dieu, dit bon, j'ai rien à faire ici, etc., etc. Et on va directement au 25 avril, bien dans 74. Alors à l'époque, vous travaillez sur un chantier à Clichy. Donc, vous étiez électricien.
Ouais.
Et avec deux autres Portugais, vous décidez, bon, ça y est, on part. Et voilà, ce départ au Portugal, bon, il y avait de l'effervescence, tout ce qu'on veut. Mais toujours est-il, quand vous êtes retourné à Lisbonne, donc, début mai 1974, même dans la ville, parce que c'était plus la ville d'antan. C'était plus votre ville, comment dire. C'était, on dirait qu'on se sentait, de certaine façon, étranger dans la ville, non?
Ça, bon, on avait parlé hors antenne. Je l'ai pas senti à ce moment-là. Je le sens maintenant. Je l'ai senti après toutes les années de la normalisation après le 25 novembre. Mais au moment du 25 avril et les mois qui ont suivi, j'ai pas senti que c'était ma ville. J'ai senti que c'était ma ville, mais différente, parce qu'elle avait un temps de révolte sociale, un temps de subordination, un temps de contestation du monde que j'avais déjà vécu à mai 68. En fait, pour moi, ces années-là du post du 25 avril et du 25 avril ont été une continuation de mai 68. J'ai vécu un temps différent, mais la ville, là, j'ai pas senti qu'elle était différente, mais elle permettait une vie différente.
Oui, mais ça n'empêche, quand vous êtes allé chez vous, chez vos parents. Bon, toujours est-il que vous n'avez pas pu dormir dans votre chambre habituelle. Parce que votre père, il avait transformé ça comme un genre de musée de souvenirs, je ne sais pas quoi. Donc, vous êtes allé dormir dans la chambre d'amis. Et là, vous avez ressenti quelque chose que vous aviez déjà ressenti pendant votre adolescence, préadolescence et adolescence, la solitude.
Oui, bien sûr. Mais je sais pas. Je pense que la solitude, c'est une composante de la liberté. Si tu choisis la liberté, quand j'ai choisi de partir, de m'exiler, ben forcément, là, il y a une solitude avec. Donc, il faut toujours comprendre ça et l'accepter. Mais là, cet épisode que tu mentionnes est important parce que. En fait, il y avait un temps différent, il y avait une vie différente dans la ville, parce qu'elle était en révolte, mais la société n'avait pas profondément changé. Et ça, je l'ai senti en arrivant chez mes parents à nouveau. Et ça, ça m'a fait un choc, et ça m'a fait comprendre que peut-être je pourrais pas revenir.
Une conclusion, c'est pas une conclusion, ça je vais te le demander à toi. S'exiler de l'exil. Bon, on pouvait passer une heure à débattre ce thème-là.
Ouais.
Mais c'est un petit peu la conclusion, je dépassais par la conclusion du livre, moi. Bon, moi j'ai tiré entre autres cette conclusion-là. Parce que s'exiler de l'exil, ça suppose plein de choses.
Ben oui, c'est pas facile. Mais il faut renouer parce que, bon, c'est une formule que j'ai repris à quelqu'un qui a une formule plutôt d'une pensée, disons, plus psychanalytique. Si tu veux, Freud a un peu travaillé aussi sur cette question. Il s'était lui-même aussi exilé. Bon, je suis pas du tout un spécialiste de Freud ni de la psychanalyse, mais ça m'intéresse. Et en plus, comment dire? C'est-à-dire qu'on est toujours exilé de nous-mêmes. Quelque part dans l'existence, si on a vraiment une pensée sur quel est le sens de la vie et qu'est-ce qu'on fait dans ce monde complètement inhumain, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'humain dans un monde inhumain. Donc s'exiler de l'exil, c'est ça, c'est-à-dire tu romps avec une situation, mais tu ne règles pas la question du fait qu'on est toujours exilé de nous-mêmes, quoi, de côté humain de nous-mêmes.
Bon, des questions, j'en avais encore plein, mais enfin, mais il faut lire le livre, hein, parce que bon, c'est impossible. Parce qu'il y a cette autre chose, il faut les lire pour comprendre un petit peu la suite logique dont on a parlé depuis environ une petite demi-heure. Donc, je rappelle, Itinéraire du refus, chez Chandaigne et Lim, collection Bruit de frontières. Oui, eh ben, j'ai pas parlé des alouettes. Des hélicoptères, j'ai pas parlé des camions berliers, etc., etc. Bon, parce que là, bon, merci, monsieur Charles de Gaulle. Bon, tu vois, il y a plein de choses dont on peut encore parler, mais qu'on peut découvrir dans le livre. Charles de Gaulle, muito obrigado.
C'est moi qui te remercie et j'étais très content de venir discuter avec toi. Merci beaucoup.
Palavras de Jorge Balada, a propósito do livro Itinéraire de Refus, edição Chandaigne e Lim, coleção Brûle Frontière. E estamos a terminar a nossa emissão. Um grande abraço ao Manuel Alexandre. Queria lembrar que há uma exposição que podem ir ver até o dia 31 de outubro deste mês, Chanson de l'exil portugais à l'aube de la Revolution des œillets 1974, que pode ser vista no hall de entrada da Maison du Portugal, André de Gouveia, Cité Internationale de Paris, 7 Boulevard Jourdan, Paris. Bem-ajam.
Donc là, on a la chambre des enfants et ici, la pièce à vivre.
Waouh, incroyable, hein, ce puits de lumière.
Avec un toit ouvrant en plus et tout ça à 0%.
Arrête.
Et là, c'est le volant multifonction et tableau de bord digital.
Jusqu'au 14 octobre, pendant les journées à taux zéro Skoda, profitez d'un crédit exceptionnel à 0% sur une sélection de modèles. Portes ouvertes ce week-end. Pour 9 000 euros empruntés, TAEOG fixe à 0% sur 36 mois, 36 mensualités de 250 euros, montant total du 9 000 euros sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr. Pensez à covoiturer.
À ceux qui font les choses à 80%. À ceux qui travaillent à 80%, bah oui, les pauses café, quoi. Et à ceux qui vont s'endormir à 80% du film. Comme ça, vous êtes sûr que ça finit bien? Vous allez être content. Dès mardi, Intermarché rembourse 80% de vos achats en deux bons d'achat sur Apéricube, les biscuits Chabrior, Sheba et Friskies. C'est ça le très gros anniversaire. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 19 octobre, des 20 euros d'achat dans la limite de 30 euros d'achat des deux produits achetés. Réservés aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus.
BMW. Il faut vraiment une bonne raison pour changer de ligne de conduite. Le coup de cœur sur un nouveau design, la magie d'un écran panoramique incurvé, le frisson du plaisir de conduire. BMW Série 1 M-Sport Design. Votre nouvelle ligne de conduite dès 290 euros par mois, sans apport.
Offre valable jusqu'au 30 novembre 2020.
Passagem de nível. O encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.